Bonsoir. On y va? Est-ce que tout le monde est bien là pour la fin de vie? Il n'y a pas d'erreur, ça va?
Pas pour tout de suite.
Tout le monde est bien vivant pour cette soirée sur la fin de vie. Eh bien écoutez, bienvenue donc pour cette soirée intitulée « Fin de vie en démocratie, quelle société voulons-nous » c'est une soirée qui s'inscrit dans une organisation régulière et traditionnelle, une collaboration entre le Centre Sèvres, Étienne Grieux, son président, nous accueillera, et la maison médicale Jeanne Garnier, dont nous avons quelques représentants, et la directrice Emmanuelle Quillet, qui nous dira aussi un mot de bienvenue. Donc je suis très heureuse de pouvoir accueillir pour cette soirée Erwan Le Moredec, qui est avocat et auteur d'un livre que nous pouvons vous montrer ici, « Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière » aux éditions du CERF. Et Erwan nous fera un petit état des lieux du débat, des éléments du débat autour de la fin de vie en France et chez nos voisins, plus ou moins lointains. C'est ça ?
Oui, plutôt proche.
Plutôt proche, chez nos voisins plutôt belges. D'accord. Et puis, nous entendrons aussi le docteur Perrine Garnier et Charlotte Dubreuil, qui est infirmière et médecin à la maison médicale Jeanne Garnier, et qui nous parleront concrètement des questions qui se posent au lit du patient. À quelles questions sont confrontés les soignants dans un contexte de fin de vie ? La maison médicale Jeanne Garnier, je ne l'ai pas dit, mais vous allez nous le dire, étant une maison médicale de soins palliatifs. Et enfin, Bruno Saintot, jésuite et directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, nous éclairera, nous dira un peu quelles références chrétiennes nous aident, nous éclairent pour nous situer dans les débats, les questions autour de la fin de vie. Cher Étienne, je te laisse le micro. Ah, tu as un micro.
Merci beaucoup Agatha. Moi, je vous dis juste un tout petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. Et bienvenue au Centre Sèvres. Donc, c'est les facultés jésuites de Paris. Et bienvenue à tous les intervenants et merci beaucoup à vous. Moi, je me réjouis beaucoup de cette collaboration entre le Centre Sèvres et la Maison Jeanne Garnier. Je pense que c'est vraiment l'occasion de travailler des questions importantes. Voilà. Et puis... Eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion autour de ce thème fin de vie et démocratie, sans doute parce que autour de ces questions-là, on a rendez-vous avec des points cruciaux qui sont très révélateurs de quelle société on veut, si on peut dire. Voilà. Donc, bonne soirée, très bon travail et merci beaucoup.
Merci Étienne. Madame Quillet.
Oui. Bien. Bien. Bonsoir à tous et à toutes. Et à mon tour, je suis très heureuse pour la première fois, en ce qui me concerne, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée commune de réflexion entre le Centre Sèvres et la Maison médicale Jeanne Garnier. Alors, pour moi, c'est un petit peu nouveau parce que, en tant que directeur d'hôpital, j'ai plus l'habitude d'intervenir dans des colloques où on parle de gestion hospitalière, où on parle de politique de la santé. Et à titre personnel, c'est la première fois que je suis amenée à intervenir professionnellement dans un colloque où on se pose la question « Quelle société voulons-nous ?» Alors évidemment, en tant que citoyenne, je peux être amenée à me poser cette question presque tous les jours. Il suffit de regarder la télévision ou de discuter avec ses enfants. Mais, et c'est peut-être une première réflexion que je voudrais partager avec vous, la spécificité pour moi de cette soirée au plan professionnel vient confirmer le fait que diriger notre maison médicale Jeanne Garnier, ce n'est pas un poste de directeur comme un autre. Alors bien sûr, il s'agit de diriger un hôpital. Mais en même temps, c'est aussi faire partie d'une chaîne, faire partie de quelque chose qui vous dépasse, d'être un maillon d'une chaîne qui a commencé il y a longtemps, Perrine en parlera, au 19e siècle, qui aujourd'hui est dans l'espace occupé et constitué de personnes qui prennent le temps de réfléchir. Et pour un directeur d'hôpital, je dirais que c'est extrêmement satisfaisant. Alors, non pas, bien sûr, qu'en tant que directeur d'hôpital, on ne soit pas amené à réfléchir. J'ai le sentiment, toute ma carrière, d'avoir réfléchi à des résolutions de problèmes. Mais la résolution de problèmes n'est pas la même chose que de réfléchir au sens de son action. Et c'est peut-être une des spécificités de notre maison, une des spécificités certainement des soins palliatifs de manière plus générale, qui est que le sens de l'action est presque aussi important, sans doute même aussi important que l'action elle-même, parce que nous intervenons, notre maison intervient dans un temps qui pour les personnes est un temps unique, un temps qui ne reviendra pas, qui est le temps de la fin de la vie. Et donc, tout devient très important, tout est souvent plus intense. Et ça, je le constate moi-même dans ma place de directeur, ne serait-ce qu'en recevant les courriers des familles, qu'il s'agisse de remerciements ou qu'il s'agisse parfois, malheureusement, de plaintes. L'émotion qui transparaît, la force des propos que nous recevons, n'est pas la même que celle qu'on peut recevoir en tant que directeur dans d'autres établissements. Et donc le fait d'intervenir dans ce champ si sensible et si délicat qui est celui de la fin de vie nous oblige effectivement, et oblige les soignants, ils en parleront, à réfléchir certainement encore plus qu'ailleurs. Et d'ailleurs, la soirée de ce soir en témoigne, puisque c'est effectivement une soirée de réflexion. Et cela m'amène à dire que notre maison médicale, Jeanne Garnier, certainement a quelque chose à dire dans ces réflexions dont on sait qu'elles vont intervenir sur la fin de la vie, ne serait-ce que parce que les soins palliatifs ont évidemment une certaine avance sur la société quant à la réflexion sur un sujet dont nous sommes bien placés et surtout les soignants sont bien placés pour percevoir toute la complexité. Et donc mon rôle, bien sûr, ici n'est pas de faire de la politique, mais si j'avais un seul message personnel à passer aux politiques sur ce sujet-là, ce serait certainement d'éviter à tout prix les simplifications et les raisonnements trop rapides. Et puis peut-être le deuxième message, ce serait de venir voir et de venir parler avec les soignants. Parce que diriger un établissement de soins palliatifs, c'est aussi être responsable d'équipes qui, tous les jours, agissent, accompagnent, interviennent auprès de patients qui sont en fin de vie. Et cela aussi, cela m'oblige, ça nous oblige à une réflexion toute particulière pour s'assurer que ces soignants qui interviennent dans un champ qui leur demande beaucoup d'engagement, peut-être encore plus qu'ailleurs, puissent continuer de le faire sans être déstabilisés par des facteurs extérieurs. Alors c'est un vaste débat parce qu'en soins palliatifs, nous ne sommes pas dans un monde idéal, pas plus qu'ailleurs. Donc bien sûr, on a des sujets de financement, bien sûr, on a des sujets parfois de manque de personnel. Mais justement, il existe déjà parfois des facteurs qui peuvent parfois gripper un peu la machine et gripper le moteur de ces soignants. Le moteur des soignants, c'est vraiment le sens de leur métier. Et donc, c'est certainement particulièrement important de ne pas prendre le risque d'une perte de sens qui pourrait être supplémentaire pour des métiers dont nous avons tellement besoin et qui sont un peu fragilisés aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais dire simplement en introduction, en vous remerciant beaucoup de ce travail collectif, de cette réflexion qui est menée sur une base annuelle entre nous. Et je vais, je pense... Oh non, d'ailleurs, c'est vous qui allez passer la parole, pardon. Parce que ça m'arrive aussi d'animer les débats, donc je réflexe et je vous laisse faire Agatha, pardon.
Merci beaucoup Emmanuel. Alors, je le disais en introduction avec un euphémisme... Nous allons parler des débats autour de la fin de vie. Alors,
concrètement quelques tout petits éléments de contexte. Peut-être savez-vous que en avril dernier, il y a un projet de loi, le projet de loi qu'on a surnommé le projet de loi Falorni, qui a été présenté à l'Assemblée nationale en vue de promouvoir une aide médicalisée à mourir, ce qui est une expression sous laquelle sont regroupées l'euthanasie et le suicide assisté. Alors peut-être tu donneras des détails là-dessus. En tout cas, voilà, nous sommes dans un contexte où il y a peut-être des forces de plus en plus sensibles en faveur d'une légalisation, en tout cas d'une législation sur l'euthanasie et le suicide assisté. Le nouveau président a formulé le projet d'une convention citoyenne pour réfléchir à ces questions. Pour l'instant, on en est là. On est aussi dans l'attente d'un avis du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui s'est saisi d'un certain nombre de questions relatives à la fin de vie, les situations limites, c'est-à-dire les situations que peut-être la loi actuelle, la loi Claeys-Leonetti de 2016, ne permettrait pas de traiter. Donc on attend cet avis. On est dans l'expectative de cette convention citoyenne. En gros, la question qui se pose, c'est est-ce que l'euthanasie et ou le suicide assisté vont être légalisés en France prochainement? Donc, quels éléments de discussion on peut avoir dans ce contexte-là? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va éclairer ce soir. Et donc, pour commencer, je vous propose d'aller du côté de la clinique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en vrai au lit des patients? Quelles sont les questions qui sont rencontrées en vrai et non pas juste dans les débats qu'on peut lire dans les journaux. Donc je passe la parole à Perrine et Charlotte qui vont nous donner des échos de leurs pratiques et de leurs rencontres. Merci.
Bonsoir. Parler de l'éthique de la fin de vie est pour moi partagé avec vous de mon quotidien. Je suis médecin de soins palliatifs depuis 8 ans à la maison médicale Jeanne Garnier. Une maison de 81 lits de soins palliatifs en plein cœur de Paris, avec un jardin, une chapelle, une aumônerie et une centaine de bénévoles d'AIM accompagnés ici et maintenant. Je découvre progressivement cette mission d'accompagnement de la vie jusqu'au bout. Je ne suis pas grand-chose face à un mystère bien plus grand que moi. Je suis là tout simplement pour être présente, soulagée, accompagnée, patient et accompagnant, au sein d'une équipe attentive au respect de la personne dans toutes ses dimensions. Toute personne est une histoire sacrée. Respecter la singularité de la personne, son histoire. Être là pour écouter, entendre les demandes et parfois y répondre. Je crois que la maison médicale Jeanne Garnier est un espace pour permettre à toute personne de vivre quelques jours, quelques semaines, avant son passage vers la mort. Un espace géographique, mais aussi un espace de temps. Nous acceptons que cette dimension de temps soit primordiale dans l'accompagnement. Laisser le temps à une personne d'accepter la maladie, le pronostic et aussi à sa famille. Souvent, le temps permet d'apaiser les tensions, les colères, mais pas toujours. Le temps des adieux, des dernières paroles. Nous sommes là pour accompagner ce temps un peu hors du temps. Mais nous sommes là aussi et surtout, enfin, pour soigner, soulager, traiter les symptômes d'inconfort. Nous sommes convoqués à une compétence clinique et technique dans la prise en charge de nos patients, tant dans le domaine de la douleur, de l'écoute, de la prise en charge pluridisciplinaire. Qu'est-ce qu'un service de soins palliatifs, un service où on aime, où on accompagne ensemble? Une patiente atteinte de SLA ou maladie de Charcot nous a donné un beau témoignage, une maison où j'ai retrouvé le sourire. Avant de parler de ces questions difficiles à laquelle nous sommes confrontés, je voudrais témoigner que ces situations sont rares, bien que plus fréquentes depuis quelques mois, et que notre quotidien en unité de soins palliatifs est le plus souvent un accompagnement pluridisciplinaire qui répond à la demande des patients, de leurs familles, d'une fin de vie la plus paisible possible et centrée sur une confiance réciproque. Tous les moyens, que ce soit les traitements traditionnels ou alternatifs comme l'aroma, thérapie, la musicothérapie, la présence des bénévoles, une aumônerie, nous permettent d'accompagner la vie jusqu'au bout, dans le respect de la dignité de chacun, en étant attentif à toutes les dimensions d'une personne. C'est ensemble que nous accompagnons toute personne hospitalisée. Je pense que le principal de notre mission est une écoute mutuelle sans jugement. Et lorsque la confiance est présente, tout est plus facile. En préparant cette intervention, je pense qu'il y a principalement deux types de questions auxquelles nous sommes confrontés et qui sont peut-être un peu paradoxales. Vous êtes sûr, docteur, que vous n'accélérez pas la mort ? S'il dort, c'est parce que vous lui donnez de la morphine ? Les traitements par morphine font encore peur à beaucoup de patients. Dans beaucoup de situations, l'explication des traitements de notre prise en charge rassure les patients et leurs accompagnants. Il existe aussi beaucoup de questions sur l'alimentation et l'hydratation. Il va mourir de faim, il va mourir de soif. Là aussi, une écoute, des peurs, des craintes permettent d'apaiser beaucoup de situations. Hier, j'ai rencontré une femme d'un patient. Je l'ai trouvée effondrée. Pourtant, l'état de santé de son mari était stable. Je ne comprends pas. Je m'assois auprès d'elle, elle m'explique. On a donné un traitement à son mari. Et elle a cru que l'on commençait à le faire dormir. Et pourtant, je vous fais confiance. Mais on entend tellement de choses. Peut-être beaucoup de fausses idées sur les soins palliatifs, dans un sens comme dans l'autre. Peur que l'on accélère le moment de la mort, peur que l'on n'aille pas assez vite. Le deuxième type de questions sont celles liées à l'expression d'un désir de mort, qui peut s'exprimer de différentes façons. Un souhait de mourir, un souhait d'accélérer la mort, des demandes d'euthanasie ou de suicide assisté. Il n'est pas facile d'être confronté à ces demandes qui demandent beaucoup d'écoute, de temps, de patience, pour ouvrir un chemin possible en collaboration avec le patient, sa famille, ses amis. Oui, nous sommes confrontés à des demandes de mort, à des désirs de mort, dans des contextes singuliers lié à l'unicité de la personne accompagnée. Mais le désir n'est pas forcément une demande. Et il est rare d'entendre « je veux mourir », mais plutôt un désir de partir rapidement, que cela ne dure pas trop longtemps, ou l'expression d'une grande lassitude face à ce temps qui peut paraître sans sens à certains de nos patients. Et il existe peu de demandes d'euthanasie claires et nettes. Je voudrais clarifier certains termes que je vais utiliser avant de poursuivre. La sédation. La sédation est définie comme une pratique de soins visant par des moyens médicamenteux à diminuer la vigilance afin d'atténuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. L'intention du prescripteur est de soulager la personne malade et non de mettre un terme à son existence. Il n'existe pas une sédation, mais des sédations. Elle peut être intermittente, transitoire ou continue, comme par exemple une sédation nocturne. Il existe une forme particulière de sédation dont on parle beaucoup, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès à la demande du patient. C'est une forme de sédation qui est encadrée par la loi de Claeys-Leonetti de 2016. Je vous rappelle les trois critères principaux, la maladie grave et incurable, une souffrance réfractaire, et un pronostic à court terme. L'euthanasie. L'acte d'un tiers qui met délibérément fin à la vie d'une personne dans l'intention de mettre un terme à une situation que la personne juge insupportable. Deux conditions sont nécessaires pour parler d'euthanasie. L'intention du tiers, qui est souvent un médecin, qui est d'arrêter la vie de la personne, et d'autre part un lien de causalité directe entre l'administration du médicament et la survenue de la mort. Le suicide assisté. Une personne qui intentionnellement aide une autre personne à mettre fin à sa vie, à sa demande exprimée de façon libre et en compétence. En reprenant une étude faite à la maison médicale Jeanne Garnier en 2014, à partir de 2157 dossiers de patients, le souhait de mourir était retrouvé chez 9% des patients, soit 195 patients. Les demandes d'euthanasie étaient retrouvées chez 3% des patients, 61 patients. Il est important de noter la fluctuation des demandes, car seulement 6 demandes d'euthanasie persistaient à la fin de leur séjour. Ces demandes, ces désirs se rencontrent dans des situations très différentes. L'arrivée à la maison médicale est synonyme pour beaucoup de patients d'une mort prochaine, et c'est souvent vrai. Mais parfois, le mystère de la vie est plus grand que notre savoir. Et parfois, les patients et leurs familles confondent soins palliatifs et euthanasie. Pour certains, il n'y a pas d'autre issue que la mort en entrant à la maison médicale Jeanne Garnier. Madame M, 94 ans, atteinte d'une maladie du sang, nécessitant des transfusions régulières. Elle décide d'arrêter les transfusions, ne trouvant pas de sens à poursuivre ce traitement, et même pensant à ceux qui ont plus besoin qu'elle de sang. Elle arrive à la maison médicale pour mourir. C'est ma dernière demeure. Pendant plusieurs jours, voire semaines, son état est stable. Elle refuse d'aller au fauteuil. Elle profite de la visite de ses enfants, de ses petits-enfants, et peu symptomatique, très souriante. Et puis un matin, elle me demande « c'est quand la piqûre ?» pour que tout cela s'arrête. Je suis assez surprise de sa demande, mais je suis bien là pour mourir. Je lui réponds que cela n'est pas sûr et que la vie peut réserver des surprises. Nous faisons un bilan, son état est stable, et ensemble, nous parlons du devenir. Je ne vais pas mourir. Cette femme a accepté de cheminer, elle a été au fauteuil, et même a refait quelque part, à quelques pas, et est partie en maison de retraite. Même implicite, cette femme avait un désir de mourir, mais a su s'adapter à un autre projet de vie. Son entrée à la maison médicale était synonyme de mort, et elle n'avait pas imaginé autre chose. Et donc, si naturellement la mort ne survenait pas, il fallait la provoquer. Nous devons être attentifs à ces non-dits, oser une parole pour dire que nous ne savons pas tout, mais qu'ensemble, nous pouvons avancer. Parfois, les patients arrivent avec un désir de mourir qu'ils expriment par une demande de sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Ces demandes, dès l'arrivée, et parfois confirmées par les équipes soignantes précédentes ou comprises comme telles, nous mettent en grande difficulté, car leur attente est que celle-ci soit mise dès leur arrivée. Madame S, 60 ans, arrive un jeudi à la maison médicale, avec un cancer, d'évolution très rapide. Elle garde une petite autonomie, décrit des douleurs importantes, ainsi qu'un désir que tout s'arrête, ce n'est pas une vie, et demande une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Je lui explique que j'entends sa demande, mais que nous avons besoin d'un temps d'évaluation pour faire connaissance, et surtout je lui propose dès son arrivée une PCA, une pompe à morphine, pour soulager sa douleur et qu'elle peut elle-même faire fonctionner, et un traitement pour la faire dormir, en lui expliquant qu'elle peut demander des doses supplémentaires si besoin. Une heure après son arrivée, je rencontre son compagnon, qui me demande que cette sédation soit mise en œuvre de suite, que ce n'est pas humain de laisser souffrir sa femme, et qu'il a un très bon ami professeur qui lui écrit que cette sédation peut tout à fait être débutée le soir même. J'explique les traitements débutés et l'importance de ce temps d'évaluation. Le lendemain, sa femme était soulagée de sa douleur et ne parlait plus de sédation. Son état s'est dégradé très rapidement et est décédée dans les 72 heures. On peut penser que le soulagement de la douleur a permis d'apaiser cette situation. Mais la demande des accompagnants peut être encore plus pressante et parfois culpabilisante de ne pas répondre à la demande de leurs proches. Je ne peux pas être sûre, mais si le traitement de la douleur avait été débuté auparavant, est-ce que la demande de sédation aurait été aussi rapide? Je me pose la question d'une prise en charge palliative précoce qui aurait pu améliorer la perception de la maladie. Mais ce n'est qu'une question. Certains patients arrivent avec une demande d'euthanasie liée à une certaine philosophie de vie. Des personnalités qui, tout au long de leur existence, ont revendiqué ce droit à mourir quand et comme ils le souhaitent. Souvent des personnalités centrées sur la maîtrise et une certaine idée de leur liberté. L'épreuve de la maladie, la diminution de leur autonomie provoque une grande souffrance. Ils ne supportent pas l'idée de se voir diminuer progressivement sans aucune maîtrise de ce qui leur arrive. Notre attitude est celle de l'écoute, d'essayer d'ouvrir une autre possibilité, sans nier la souffrance. L'équipe soignante est souvent en grande difficulté, car dans certains cas, ils mettent en échec toutes nos tentatives de prendre soin, de soulagement. Notre accompagnement est centré sur la prise en charge de la souffrance dans sa globalité. Il est souvent difficile d'isoler une souffrance existentielle de la globalité de la souffrance. Dans ces situations, lorsqu'une demande de sédation survient, il est difficile de rester à distance de leur demande d'euthanasie et de discerner si la demande de sédation est licite. C'est un travail d'équipe. Mais ces demandes, nous considérons ces demandes de mort comme des appels à l'aide devant une souffrance trop difficile à supporter. Je voudrais souligner l'inconfort éthique qui résulte du passage d'une demande d'euthanasie à une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, tant pour le médecin que je suis que pour toute l'équipe soignante. Et pourtant, nous devons être attentifs à ces demandes sans jugement sur la demande initiale. Peut-être avons-nous peur d'être un peu manipulés. Dans d'autres situations, malgré l'engagement des soignants, le recours à des traitements variés successifs, la prise en charge pluridisciplinaire, l'expression de la souffrance est toujours présente. Et certains patients expriment un désir de mourir et que tout cela s'arrête. C'est souvent après un séjour de plusieurs jours en USP, en unité de soins palliatifs. Et cela répond plus à une demande d'un arrêt de souffrance qu'un arrêt de vie. Il faut reconnaître que ces situations sont rares et souvent surviennent en toute fin de vie. Notre accompagnement ne fait pas disparaître toute souffrance. La relation de confiance est souvent présente et des alternatives thérapeutiques peuvent être proposées pour accompagner ces souffrances réfractaires. Dans toutes ces situations, la posture de l'équipe est celle d'une écoute mutuelle pour chercher avec le patient la meilleure prise en charge thérapeutique en proposant tous les moyens qui sont à notre disposition. Ce qui est difficile, c'est l'absence de dialogue ou une non-écoute qui peut être réciproque. Notre posture est toujours de tenter de soulager, accompagner, écouter l'expression de la souffrance sans jugement. Dans toutes ces situations, ce que je retiens, c'est l'ambivalence des demandes et leur variabilité dans le temps. Certaines demandes ne sont exprimées qu'à certaines catégories de soignants, par exemple jamais aux médecins, et l'inverse est vrai. Quel en est le sens ? Parfois, les patients n'osent pas l'exprimer, c'est la famille ou les amis qui nous le demandent. Comment vérifier la véritable volonté du patient ? Peur de nous l'exprimer, pression de sa famille, impression qu'il est une charge pour sa famille ? Ce qui me paraît essentiel dans toutes ces demandes, c'est que nous sommes protégés par la loi interdisant l'euthanasie. Cet interdit ouvre un possible autre, une invitation à une créativité et peut-être une assurance pour le patient qui peut exprimer ce désir, cet appel à l'aide, sans que celui-ci soit possible. Malgré les difficultés, ces demandes sont parfois inconfortables car source d'une certaine violence, agressivité. Elles sont pour nous une incitation à une vigilance encore plus grande à la souffrance de l'autre. Dans certaines situations, nous pouvons proposer une sédation. Je reprendrai les recommandations de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, dont les indications, des situations aiguës à risque vital immédiat, des hémorragies, des détresses respiratoires, souvent des sédations temporaires. Pour les symptômes réfractaires vécus comme insupportables par le patient. Tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé en dépit des efforts obstinés pour trouver un autre traitement adopté sans compromettre la conscience. Les autres indications, les arrêts de traitement avec un risque de souffrance, les ventilations assistées et parfois la nutrition et l'hydratation. Madame S, 64 ans. Un cancer qui entraîne de grandes douleurs physiques avec une conséquence sur son corps importante, rendant sa vie insupportable. Un long passé de toxicomanie, un antécédent de schizophrénie, avec une personnalité particulièrement colérique. Un premier séjour difficile pour les soignants. Consommation de cocaïne, propos agressifs. Nous lui demandons de rentrer chez elle pour non-respect des règles. Elle revient quelques semaines après, elle a changé de service, et moi aussi, nous nous retrouvons. Elle va moins bien. Ses douleurs ne sont pas contrôlées. Nous essayons tout, et rien ne marche de façon pérenne. Elle m'explique que c'est la seule chose qui la soulage, la cocaïne. J'entends, nous tolérons un peu. Un frère très présent, jusqu'à une demande de sédation profonde et continue. Après une réunion de procédure collégiale, nous avons dit « ok ». Et puis elle m'a dit « pas tout de suite ». Je pense qu'elle nous a laissé le temps pour accepter sa décision à l'équipe et surtout à son frère. Elle est partie paisiblement. Je n'oublierai pas son visage, son regard, sa voix rauque et provocatrice. Dans toute demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, nous demandons toujours un temps d'évaluation, un temps pour faire connaissance avec la patiente, le patient, son entourage, un temps pour proposer des alternatives thérapeutiques avant de parler de souffrances réfractaires. Et si la demande persiste, nous organisons une réunion de procédure collégiale. Tous les soignants sont invités à participer avec la présence d'un médecin extérieur qui ne connaît pas le patient. Nous vérifions que la demande correspond aux critères fixés par la loi. Tous les soignants sont invités à s'exprimer sur la situation. Mais en dernier lieu, la décision est médicale. Une fois la décision prise et suivant la temporalité du patient, nous endormons le patient pour qu'il puisse mourir en dormant. Ce ne sont pas nos traitements qui le font mourir, mais bien sa maladie. Je voudrais souligner que ces situations sont rares, mais toujours inconfortables pour le patient, pour le soignant, pour les accompagnants. Et que cette sédation n'est jamais débutée en urgence, mais toujours après un temps d'évaluation. Voilà, je vous ai partagé de mon quotidien de médecin d'un service de soins palliatifs. Que m'ont appris les soins palliatifs ? Ne pas vouloir tout maîtriser, savoir que la médecine a ses limites et que derrière le mot de souffrance, il y a une personne avec toutes ses dimensions psychologiques, spirituelles, sociales et que tout s'imbrique. Reconnaître que cette souffrance d'autrui ne m'est pas indifférente et que je suis touchée dans mes dimensions moi aussi. Oser la présence, la parole, le silence, oser être là avec ce que je suis, avec les moyens dont je dispose, la médecine, les soins, la présence. Oser la rencontre avec cet être souffrant, même si je sais que je n'ai pas le pouvoir ni le savoir pour guérir la souffrance de l'autre. L'importance du travail d'équipe, où chaque membre a sa place et apporte un plus dans l'accompagnement du patient. La semaine dernière, un agent d'entretien est venu me remercier. Il avait pu faire le ménage tranquillement pendant que je rencontrais le mari de la patiente. C'est vraiment un travail d'équipe.
Merci. Merci beaucoup.
Oui, c'est à moi.
Oui.
Bonsoir. Du coup, je me présente, je m'appelle Charlotte, je suis donc infirmière à la maison médicale Jeanne Garny depuis 4 ans et demi, et depuis un an et demi, je suis à l'équipe mobile de soins palliatifs, donc je suis détachée sur le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Donc moi, je vais parler par rapport à mon expérience d'infirmière d'équipe mobile, qui complétera, je pense, très bien l'intervention de Perrine. À la question « À quelles questions sont confrontés les soignants dans un contexte de fin de vie ?», je vais vous faire part de certaines remarques et certaines questions qu'on retrouve du coup au sein de notre activité d'équipe mobile et qui rejoint encore une fois ce que Perrine a pu dire. Vous allez accélérer les choses en mettant ces traitements, et on peut l'entendre du patient, de l'équipe et de la famille. Pouvez-vous attendre un peu ? Ses proches arrivent bientôt. Ça, on l'entend de l'équipe et puis d'autres proches également. Je n'en peux plus, je veux que ça s'arrête, pouvez-vous m'aider ? Ça, on l'entend de certains patients. Il a demandé à mourir, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ça, on l'entend des équipes soignantes. Moi, les accompagnements de fin de vie, je ne sais pas faire. Je n'ai pas choisi de faire ce métier pour ça. Ça, on l'entend des équipes soignantes et il y a encore quelques heures. Est-ce que je fais bien ? Car j'ai l'impression de ne rien faire. Encore une fois, des équipes soignantes. Et puis celui que je préfère. Ah ça y est, les soins palliatifs sont là. On a compris. Les patients, l'équipe et les proches. Pour rejoindre ce que dit Perrine, les demandes d'aide à mourir, elles restent rares. Mais pour moi, elles ne sont pas synonymes de mauvaise prise en charge. Je trouve que c'est important de le souligner. Et la majorité des accompagnements dans les services se passent bien, tant avec le patient, les proches et les équipes. Donc on intervient dans autant, enfin très souvent en oncologie, mais en médecine, en chirurgie, Et en effet, on voit des soignants plus à l'aise et d'autres moins à l'aise. Et c'est notre rôle, du coup, de les accompagner là-dedans. Moi, j'analyse toutes ces questions de la manière suivante. Je repère la même ambivalence que toi entre la notion d'accélération de la mort qui peut être souhaitée et à l'inverse, l'accélération de la mort qui peut être redoutée. Donc, il y a la même ambivalence sur... sur ça, au moment de l'initiation en fait des traitements qui font peur, quand on parle de morphine, ça reste quand même un médicament qui fait peur, et puis le midazolam aussi qui est un anxiolytique et qui est le médicament qui est utilisé en première intention dans la sédation profonde et continue, mais qu'on utilise aussi à dose anxiolytique. Et du coup parfois c'est important de pouvoir reprendre tant avec les patients qu'avec les familles et qu'avec les équipes. Ce que j'ai pu repérer aussi, c'est une grande agitation des équipes et un grand mal-être face aux demandes de mort qui vont être verbalisées par les patients. Parce que ce que je remarque, c'est qu'à la base, l'hôpital, c'est un lieu qui, initialement, a été conçu pour guérir et soigner au sens de sauver. Et donc, la temporalité, elle est complètement bousculée parce que on est à l'hôpital et on n'est pas dans une unité de soins palliatifs. Donc, c'est pas la même chose. Les demandes de patients, elles viennent souvent de la perte de sens. Pour lui, il a une vie qui est non qualitative, avec l'apparition d'une dépendance totale, des souffrances physiques, psychologiques, spirituelles, etc. Et entraînant ces mots-là, je veux que ça s'arrête. Ce que je remarque aussi également très souvent, et encore il y a quelques heures, une opposition très fréquente entre soins palliatifs et soins curatifs. Ce qui me paraît important de rappeler en médecine, c'est qu'en fait on guérit pas tout et on guérit que très peu de choses en fin de compte. Et soigner, c'est pas la même chose que guérir. Donc je pense que c'est important de pouvoir le rappeler à l'hôpital surtout. C'est là où on vexe aussi un petit peu plus les gens, mais c'est important de pouvoir le rappeler. Les progrès médicaux qui sont constants entraînent un allongement de la vie et selon moi un risque aussi d'acharnement thérapeutique qui est important de souligner. Souvent on entend on a fait ça, alors pourquoi pas essayer ça aussi. Du coup quand est-ce qu'on s'arrête? Et encore une fois, en médecine, sans critiquer les médecins, hein, c'est très important pour moi, il y a souvent une idée fréquente que on sait, alors que la mort, personne ne la connaît et personne ne la prévoit. Donc ça, on le rappelle aussi assez régulièrement aux équipes. La place du soignant, selon moi, c'est l'écoute. Je reprends ce que tu dis, Perrine. Écouter la demande du patient, la demande de sa famille, parce que parfois la demande, en effet, elle vient de la famille. Et surtout l'équipe soignante, qui est très très importante pour moi. Il faut identifier le ou les symptômes d'inconfort du patient. Mais néanmoins, il ne faut pas minimiser la demande de mort du patient en raison de ces symptômes là, justement parce que on risque d'inhiber en fait la demande. Et selon moi, encore une fois, il faut pas opposer systématiquement soins palliatifs et demande d'aide active à mourir exprimée par le patient, parce que c'est une demande qui est réelle, qui est formulée, parfois reformulée par le patient et qui est significative. Et pour moi, les soins palliatifs, on a un rôle crucial dans l'accompagnement de ces demandes. Ce que représentent les soins palliatifs pour moi, c'est un rôle majeur d'information, de formation et d'accompagnement des patients, des proches et des équipes soignantes. Donc les équipes au sens large, c'est médical, paramédical et toutes les autres professions qui interviennent dans la prise en charge, les diététiciens, les kinés, les psychologues, tout le monde, également les bénévoles d'accompagnement. La formation théorique, législative, informer sur ce qui existe déjà avant de s'emballer à rajouter des choses dont on n'a peut-être pas forcément besoin tout de suite. La sédation profonde et continue, la personne de confiance, les directives anticipées, et j'en passe. Je rebondis sur la précocité. La précocité des soins palliatifs, pour moi, elle est considérable dans la prise en charge des patients et dans leur parcours de soins. Et on sait aujourd'hui que plus on est précoce, plus c'est révélateur de meilleure prise en charge et de meilleure qualité de vie pour le patient, tant sur les pathologies chroniques que aiguës, d'ailleurs. Et pour moi, il ne faut pas qu'on soit des simples rappels à la loi, parce que parfois, ça bloque l'entretien. Et en fait, ça enferme le patient dans sa demande. Et on a une grosse perte d'information qui peut être cruciale dans la prise en charge. Et on peut perdre cette relation soignant-soigné qui est encore plus importante pour moi en soins palliatifs. Du coup, pour conclure et pour ouvrir le débat, moi je dirais, est-ce qu'on doit systématiquement voir derrière une demande de sédation profonde et continue une demande d'euthanasie ? Et pour nos politiques, si jamais il y a des politiques, les questions qu'on se pose quand on est bien portant, c'est pas les mêmes questions qu'on se pose quand on est malade. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est à la fois très concret et puis tellement habité par le sens que vous y mettez aussi. C'est très important d'entendre cet aspect-là. Je passe la parole à Erwan, dont j'ai oublié de dire tout à l'heure que tu es aussi bénévole à la Maison Médicale Jeanne Garnier.
Oui, bébé bénévole, mais je viens de commencer, mais oui. Il me revient donc là de vous apporter une approche qui sera une approche plus juridique ou en tout cas législative. Mais heureusement, l'intitulé de mon intervention m'offre l'opportunité d'une ouverture sociale et éthique, l'éthique étant, je l'espère, l'inspiration et la respiration du droit. Alors, comme on l'a dit, à ce jour, on ne sait pas exactement ce qui nous attend d'un point de vue législatif. Une consultation citoyenne a été annoncée et nous pourrions, avec la légitimité, le légitimisme et la bonhomie qui nous caractérisent, commencer par donner sa chance à la consultation. Mais comme on dit, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, et nous avons quand même une antériorité, la connaissance des consultations qui ont été tenues pendant tout le premier quinquennat, et leur sort. Nous avons aussi connaissance de la position exprimée par Emmanuel Macron à la fin de la campagne présidentielle, puisqu'il s'est déclaré favorable au modèle belge, avec des grands guillemets. Nous savons aussi qu'il a entendu, même si apparemment les choses sont en débat, entendu confier la consultation au Conseil économique et social. Conseil économique et social dont, d'une part, on connaît les influences, mais dont on connaît aussi les positions passées, puisque il a en 2018 de mémoire rendu un avis dans lequel il se prononçait pour une sédation explicitement létale, ce qui signifierait que on pratique des sédations implicitement létales et que l'on parle de sédation létale, ce qui, à mon sens, enfin, je crois que c'est pas qu'à mon sens, est une contradiction dans les termes. Et donc, on avait une position totalement incongrue, mais qui était significative aussi d'une forme de précipitation à se prononcer sur un sujet dont le Conseil n'était probablement pas, pour lequel il n'était probablement pas compétent. Et puis, nous avons aussi une ministre de la Santé qui vient d'être nommée et dont chacun connaît ou peut connaître le parcours militant en faveur de l'euthanasie. Donc la confiance dans ce processus ne me semble pas une option possible, c'est au minimum la vigilance qui doit nous accompagner. Et j'évoquerai donc, pour commencer, l'anti-modèle belge, celui que l'on nous annonce, celui sur lequel les propositions de loi sont calquées, que ce soit la proposition de loi Falorni, sa petite sœur ou sa grande sœur, la proposition de loi Touraine, qui elle n'a pas été débattue, et probablement leur autre sœur, la proposition de loi de la DND, qui sont toutes des décalques les unes des autres et qui sont aussi des décalques de la législation belge. Et puis je m'autoriserai en finale une ouverture sur l'impact d'une telle législation sur notre société, en tout cas tel que je peux l'entrevoir. Alors, les termes en débat d'une légalisation de l'euthanasie. Perrine Garnier et Charlotte Dubreuil ont bien apporté la démonstration de ce qui se pratique aujourd'hui. On a un peu de recul sur ce qui se pratique en Belgique qui fête les 20 ans de la loi de légalisation de l'euthanasie. Donc c'est une loi qui a été adoptée le 28 mai 2002 et dont je rappellerai juste, je vais pas évidemment pas vous en faire la lecture, mais dont je rappellerai juste l'article principal qui est l'article 3 paragraphe 1er qui dit que le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande, que la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure. Troisième condition qui était essentielle, que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la loi. Voilà pour le texte. Alors concrètement, le système belge, c'est une euthanasie qui n'est pas limitée à la fin de vie. Je pense que tout le monde associe spontanément euthanasie et fin de vie. En l'occurrence, l'association n'est pas faite et n'est pas le cas dans la législation belge. Le pronostic vital n'est pas nécessairement engagé. J' ai eu le cas particulier. J'ai tenu un débat sur RCF en février avec Corinne Van Oost qui a écrit « Moi, médecin catholique, je pratique des euthanasies ». Et à un moment donné, je lui dis « Mais vous savez, je sais quand même aussi un peu ce qui se pratique en Belgique, et notamment le fait que vous pratiquez des euthanasies pour DMLA. La DMLA étant la dégénérescence maculaire liée à l'âge. » Je suis content de voir que ça fait réagir parce que j'en ai parlé à des amis qui ne réagissent pas à ça. Donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge où donc en fait on perd la vision centrale, il me semble, et parfois ça peut aller jusqu'à la perte de la vision totale. Mais enfin, en tout état de cause, ça ne met pas en jeu le pronostic vital. C'est effectivement un cas d'ouverture de l'euthanasie. L'euthanasie est ouverte pour souffrance physique ou psychique. Il y a une alternative. Donc quand vous regardez les rapports de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, donc l'organe belge, vous avez une case pour ce qu'ils appellent les troubles de l'humeur, entre parenthèses, autisme, troubles bipolaires, schizophrénie, dépression. On peut être euthanasié pour dépression. En Belgique, même si les psychiatres avaient eu une forme de levée de bouclier en disant « mais si on commence à accorder l'euthanasie à tous les patients qui viennent dans notre cabinet nous dire qu'ils veulent en finir, on va euthanasier une bonne partie de notre patientèle ». C'est aussi une euthanasie qui est pratiquée à 70% sur des personnes de plus de 70 ans. Donc quand on nous présente dans le débat systématiquement, puisque maintenant c'est comme ça que c'est fait, et j'ai d'ailleurs eu à participer à un débat avec une personne atteinte de la SLA, maladie de Charcot, on ne nous présente que des patients atteints de la SLA. Il faut savoir que là aussi, les statistiques officielles belges nous enseignent que les euthanasies demandées pour maladie du système nerveux, ce qui comprend la SLA, ne concernent en moyenne que 5% des euthanasies. 95% des euthanasies ne le sont pas pour ce cas-là. En revanche, elles sont majoritairement pratiquées pour des personnes âgées, notamment parce que elles rassemblent les cas que l'on a pu, le cas d'ouverture qui est le cas de la des polypathologies. C'est-à-dire que le texte que je vous ai cité parlait du fait d'être atteint d'une affection grave et incurable, mais quand on n'est pas atteint d'une affection grave et incurable, eh bien, on a rassemblé les affections, et donc vous avez, dans les cas d'ouverture à l'euthanasie, le fait éventuellement d'être atteint d'arthrite, une perte de vision, de l'incontinence, ce qui, à certains égards, peut se résumer au tableau clinique de la vieillesse. Donc, finalement, l'euthanasie est ouverte aux personnes âgées sous réserve que l'on qualifie une polypathologie. C'est aussi une euthanasie dans laquelle, finalement, on est arrivé à une interprétation de la loi tellement large qu'on peut dire que c'est un peu le patient qui décide de son incurabilité. Parce que il a le droit, comme on a heureusement le droit aussi en France, de refuser un traitement. Mais le seul fait qu'il refuse un traitement le qualifie, le caractérise comme étant incurable. Alors qu'évidemment, quand on a dû adopter la loi et quand on rédige un texte de loi comme celui-là, lorsqu'on emploie le terme d'incurable, lorsque l'on parle d'une maladie incurable, tout un chacun se dit, je vais me tourner vers un médecin, puis je vais lui demander, c'est curable, c'est incurable. Et en fait, non. On en arrive effectivement à la situation où quelqu'un qui décide de l'arrêt d'un traitement entre dans un cas d'ouverture à l'euthanasie, ce qui n'est pas une automaticité. Alors évidemment, moi, quand je parle de ces questions-là, quand je souligne un peu le fait que ça va beaucoup plus loin que ce que l'on croit, quand j'évoque aussi les pressions auxquelles peuvent être, enfin, ou les influences que peuvent subir des patients, on me dit oui, mais dans ce cas-là, il faudra mettre des garde-fous. Il faut encadrer un peu sérieusement. Et on va faire un peu comme en Belgique. Alors l'encadrement belge, c'est quoi? L'encadrement belge, déjà, c'est un contrôle a posteriori. Ce qui est toujours gênant, comme dans la peine de mort, lorsque vous avez commis une erreur. C'est un contrôle aussi qui est effectué sur déclaration. Donc sur déclaration, on sait déjà qu'entre 25 et 50% des euthanasies réalisées en Belgique ne sont pas déclarées. Mais même lorsqu'elles sont déclarées, le président de la commission de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, dans une émission, c'était complément d'enquête en 2014, interrogé par un journaliste, le président de la commission de contrôle a dit, je le cite, « On ne contrôle que ce qui est déclaré, les cas douteux, forcément, ils ne sont pas déclarés, donc on ne les contrôle pas. » Donc c'est une commission de contrôle qui contrôle les cas qui vont bien, et qui conclut qu'ils vont bien. C'est aussi une commission qui est in fine un organe de couverture des médecins par les médecins. Je n'ai pas d'antipathie pour les médecins, surtout ceux qui sont à cette table. Mais le fait est que ceux qui siègent dans cette commission sont des médecins qui sont tous favorables à l'euthanasie. Pour la plupart, voire la totalité, ils pratiquent des euthanasies. Et il les contrôle ensuite. Et lorsque un cas doit être apprécié, pour savoir si on transmet un dossier au procureur, du roi en Belgique, c'est à deux tiers. Enfin, la répartition des votes, c'est deux tiers pour les médecins, un tiers pour les personnalités qualifiées. Ce qui fait que, en fait, en 20 ans, la commission de contrôle n'a transmis qu'un seul cas au procureur du roi. Il n'y a pas un système législatif qui, en 20 ans, ne produise qu'une infraction. Donc, on peut, sans avoir la liste des cas, mais on peut savoir qu'il y a nécessairement des cas problématiques qui n'ont pas été contrôlés ou qui ont été contrôlés et validés un peu rapidement, comme c'est d'ailleurs arrivé, mais je ne vais pas m'étendre. Alors passons aux propositions de loi françaises, on a eu la proposition de loi Falorni dont l'article premier a été voté, ça s'est arrêté là pour des questions finalement de chronomètre, puisqu'il fallait que ce soit débattu dans la journée. Alors l'article premier a été voté sous les vivas des députés. Je ne crois pas que ni les Français, ni en fin de compte beaucoup de députés aient réalisé ce qu'ils votaient. Le système que proposait la proposition de loi Falorni, c'est le système belge que je viens de vous décrire, mais parfois même en allant plus loin que cela. Comme la loi belge, la proposition de loi Falorni proposait l'euthanasie aux seules souffrances psychiques, donc l'euthanasie pour dépression. Je ne crois pas qu'un seul Français ait imaginé que l'on puisse proposer l'euthanasie pour dépression, et lorsque les Français sont sondés, on les sonde sur des douleurs physiques insupportables, on ne les sonde jamais sur l'hypothèse d'euthanasier des personnes dépressives. Comme la loi belge aussi, l'euthanasie n'est pas réservée aux situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé. Il s'agit d'affections qui sont à un stade avancé. Jean-Marie Gomas, qui est une référence en soins palliatifs, me disait, quand il s'est agi de déterminer ce qui était un stade terminal, une phase terminale, ça a déjà été compliqué. Mais un stade avancé, ça va correspondre à quoi? On ne le sait pas bien. Donc ça peut être un stade finalement relativement préliminaire, puisque finalement, stade avancé, juridiquement, ça ne dit pas grand-chose. À la différence, en revanche, de la loi belge, et c'est là que le système français était plus radical, la proposition de loi Falorni ne prévoyait aucun délai spécifique quand le pronostic vital n'était pas engagé. La loi belge nécessitait un délai d'un mois avant de réaliser l'euthanasie. Il n'y a pas de délai dans la proposition de loi Falorni. Ce qui fait que, en réalité, on peut se retrouver avec une euthanasie réalisée dans le délai de 4 à 6 jours que prévoyait la proposition de loi Falorni, y compris dans ces situations-là. Et donc, y compris, si je vais un peu à l'extrême, mais on peut avoir une euthanasie pour dépression dans un délai de 4 à 6 jours à partir de la demande. Il faut espérer qu'il y aura encore quelques réticences à les pratiquer si un tel texte était voté, mais c'est possible. Alors, il y a aussi une autre possibilité, enfin une autre question juridique qui est soulevée, qui est de nouveau soulevée, et qui est la question de l'exception d'euthanasie. Alors, je dis de nouveau, et je salue le père Verspiren qui est dans la salle, parce que en 2000, il avait déjà eu à répondre et à formuler une critique serrée de la proposition de l'avis numéro 63 du Conseil du Comité consultatif national d'éthique, qui proposait d'envisager une exception d'euthanasie. L'exception d'euthanasie, en fait, c'est un terme déjà qui ne dit rien à personne, qui est ambivalent, parce que lorsque l'on parle d'exception d'euthanasie, on entend qu'on va parler de situations exceptionnelles, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Juridiquement, c'est pas un objet très identifié, parce que on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, mais on a eu l'an dernier, au moment de l'affaire de Alain Coq, une consultation qui a été faite par un maître de conférence spécialiste de bioéthique, Denis Berthiaud, qui a été rendu au Conseil national sur la fin de vie et les soins palliatifs, et qui expliquait que le droit français connaît déjà des exceptions, notamment à la répression de l'homicide. Et alors, pour lister les exceptions, prendre exemple, il disait, on a la légitime défense, ou on a l'état de nécessité. L'état de nécessité, il prenait comme exemple les naufragés du radeau de la Méduse, le gars qui boulotte son voisin, et donc qui effectivement est dans une situation de sauver sa propre vie. Mais ce qui est vertigineux dans cette référence et dans les exemples qu'il donne, c'est que ce professionnel du droit ne semble pas percevoir que ce rapprochement opère des ruptures gravissimes. Parce qu'en réalité, les deux exemples qu'il donne sont des exemples d'exception qui existent effectivement, mais qui n'existent que pour sauvegarder une vie. La légitime défense, c'est pour sauvegarder ma vie. L'état de nécessité, le naufragé qui mange son voisin, c'est pour rester en vie. Envisager d'intégrer et penser qu'intégrer une exception d'euthanasie ne serait que se situer dans la foulée des exceptions qui existent déjà dans notre droit, c'est considérer qu'une exception qui conduit à sauvegarder la vie ou une exception qui conduit à anéantir la vie, c'est juridiquement la même chose. C'est une conception du droit qui n'est pas la mienne et finalement une forme aussi de relativisme, mais une forme inquiétante, parce que c'est se dire que finalement tout ça, ce sont des actes qui sont équivalents l'un à l'autre. Il faut savoir que la sauvegarde de la personne, parce que la question de l'état de nécessité a rejailli dernièrement, puisque vous avez eu un cas dans lequel un vétérinaire a été relaxé pour avoir euthanasié un de ses amis sur le fondement de l'état de nécessité. Pourtant, l'article 122.7 du Code pénal dit clairement que l'état de nécessité n'est caractérisé que pour la sauvegarde d'une personne. Alors, comme on a dans ce débat tendance à utiliser les concepts, tordre les concepts et les définitions, on est arrivé à un niveau du raisonnement qui consiste à nous dire « mais la sauvegarde d'une personne, c'est la sauvegarde de la personne avec ses émotions, ses affects, la personne qui est en fin de vie et qui souffre n'est plus vraiment la personne et donc lui administrer la mort, c'est la sauvegarder. » Là aussi, c'est assez vertigineux, parce que si je veux bien comprendre que la personne ne se limite pas à sa vie biologique, considérer en revanche que l'on sauvegarde la personne en anéantissant l'être, me semble être une déconnexion qui est problématique et qui certainement ne peut pas être acceptée ni par la société ni par notre droit, ce qui souvent va ensemble mais pas toujours, sans un examen profond. Je vois pas, de toute façon, il y a eu un appel sur cette décision, la Cour de cassation se prononcera probablement, mais je vois mal comment on peut accepter qu'en droit français, on sauvegarde mieux une personne en lui administrant la mort. C'est assez vertigineux, ça ne concernerait pas que les débats sur la fin de vie. Il faut savoir aussi que toutes les situations de légalisation de l'euthanasie dans les pays que nous connaissons sont des situations dans lesquelles on a connu un élargissement systématique et constant. Il n'y a pas un cas, alors à l'exception peut-être, et là du coup ça n'est pas l'euthanasie, mais à l'exception de la Suisse qui sur le suicide assisté n'a pas bougé, et voire même à juste là dernièrement, ces dernières semaines, plutôt restreint la possibilité, puisque les médecins, enfin je crois que c'est l'ordre des médecins ou l'académie de médecine, je ne sais plus exactement, a précisé qu'il fallait qu'il y ait un entretien avec deux médecins, et que les personnes en bonne santé étaient exclues du suicide assisté. Ce qui signifie, à contrario, que jusqu'à maintenant, il n'était pas nécessaire d'avoir un entretien avec deux médecins et que les personnes en bonne santé pouvaient être soumises à un suicide assisté ou le demander. Mais sinon, dans tous les autres cas, c'est un élargissement constant. La Belgique en a été un bon exemple. La Belgique débat ces derniers temps aussi de la possibilité de pratiquer une euthanasie pour vie accomplie. J'ai eu un échange un peu ardu avec Jacqueline Hérémence sur Twitter, qui est la présidente de la DMD en Belgique et qui est membre de la commission de contrôle, et justement en l'interpellant sur ce qu'elle entendait par une possibilité d'euthanasie pour vie accomplie et sur la faisabilité pratique, ça donne lieu à des débats très intéressants et assez savoureux. À partir de quel âge ? Je suis désolé pour un certain nombre de personnes de la salle. À partir de 70 ans, on considère que elle a commencé à considérer qu'on pouvait être dans une situation de vie accomplie. Mais à la rigueur, dans la mesure où on est dans une logique d'autodétermination, pourquoi ne pas considérer qu'à 30 ans, je puisse dire que j'ai eu une vie accomplie et que ça suffit? C'est une possibilité. Donc c'est dire quelque chose de la logique qui nourrit ces débats et qui conduit systématiquement à un élargissement. Au Québec, au Canada, on a eu cette situation d'élargissement douloureuse pour beaucoup de praticiens des soins palliatifs, parce que beaucoup se sont formés au Canada et au Québec en particulier. Mais vous avez eu l'an dernier la suppression du critère de fin de vie. Vous avez en ce moment une discussion pour faire obligation aux maisons de soins palliatifs d'accepter des euthanasies en leur sein. Jusque-là, elles y étaient parfois arrivées par contrainte et par contrainte plutôt financière. Vous avez une maison qui a été peut-être aussi célèbre et fondatrice des soins palliatifs au Québec, qui est la maison Jacques Sarrazin, si je me ne trompe pas, Michel Sarrazin, pardon. Qui a annoncé au début de l'année qu'elle accepterait de pratiquer des euthanasies, enfin que des euthanasies soient pratiquées en son sein, et c'était plus par contrainte financière, parce qu'elle perdait des financements publics et qu'elle perdait aussi des financements privés, parce que l'évolution des mentalités a fait que, comme le disait, je ne sais plus si c'est un soignant belge ou canadien, les médecins de soins palliatifs sont passés du statut de héros au statut de bourreau. C'est-à-dire que celui qui ne met pas un terme à la vie de celui qui souffre est perçu comme un bourreau, et donc il n'y avait plus de financement pour assurer la pérennité de la maison. Et donc là, le Québec est en train de débattre d'une proposition qui fera obligation de réaliser des euthanasies. Alors, j'en viens à des questions plus sociétales et plus éthiques. Pour parler de cette euthanasie, je dirais que c'est une liberté en trompe-l'œil et en trompe-conscience. On vient de le voir avec la question de l'exception de l'euthanasie. Sa promotion essaye de se glisser dans une continuité alors qu'elle est une rupture. Elle tente, dans le débat militant, de se fondre dans la grande marche des conquêtes sociales et de l'émancipation, alors que la réalité pour moi, c'est qu'elle ne leur appartient en rien et qu'elle n'est en aucun cas leur suite logique. Et dans un deuxième temps, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que c'est pas la légalisation de l'euthanasie qui préserve la liberté, c'est son interdit qui sauvegarde la liberté de la personne. Alors, la légalisation de l'euthanasie entre rupture et continuité. Déjà, une observation, nos sociétés ont toujours progressé par la préservation de la vie. Toujours. Ça a été l'interdiction des duels, ça a été l'abolition de la peine de mort. Et si le débat est plus délicat, l'intention première quand on a légalisé l'avortement, c'était la sauvegarde d'une vie, celle de la mère. En tout cas, c'était l'intention qui était annoncée. Donc, on a été à chaque fois dans le cadre d'une sauvegarde de la vie. Passer à l'euthanasie, ça n'est pas une continuité. Ça n'est pas s'inscrire dans la même marche et dans les mêmes débats. On parlait tout à l'heure de la question de l'émancipation, parce que c'est aussi un vrai moteur de la revendication militante. C'est-à-dire, on est effectivement une émancipation d'un discours normatif, une émancipation aussi vis-à-vis probablement des discours de l'Église, une émancipation parce que c'est la personne seule et la personne elle-même qui se décide. Pour moi, cette émancipation, c'est une émancipation qui tourne à l'abandon, en réalité. On est avec l'euthanasie sur le cas ultime de l'émancipation, parce qu'on arrive effectivement au dernier point, on est à un point culminant. Mais ce que je remarque, et notamment parce qu'on m'a demandé plusieurs fois quel est le lien, comment vous faites le lien entre ce qui s'est passé pendant le Covid, où on a quasiment arrêté une société entière pour préserver les personnes fragiles, et la volonté aujourd'hui de légaliser l'euthanasie. Le seul lien que je fais, il est presque juridique. C'est qu'en fait, on est dans une société qui se dédouane. Quand on a enfermé des personnes âgées dans leur chambre pendant des semaines, on l'a fait pas tellement pour préserver les personnes, on l'a fait pour ne rien avoir à se reprocher et ne pas risquer la mise en cause de la responsabilité pénale. Et aujourd'hui, quand on invoque aussi la possibilité de l'euthanasie, d'un certain côté, on dit ben, la personne prendra sa décision, la personne aura les critères de choix, c'est elle qui la prendra. Je suis un peu parfois réservé aussi sur les directives anticipées, où j'ai parfois le sentiment que c'est un peu une façon de dire elle a pris sa décision, elle l'a mis par écrit. Nous, on se retire de la relation, finalement, et on fait ce qu'on nous a demandé, on ne peut rien nous reprocher. Donc on est dans cette situation finalement où on se lave les mains de la relation, on se dédouane de notre responsabilité et en revanche on laisse la personne et la personne malade en responsabilité seule de sa décision. Parce qu'elle est supposée libre, parce qu'elle est déclarée libre, on la laisse seule alors qu'on a affaire à des personnes qui sont nécessairement... au stade ultime, je pense, de la vulnérabilité. Si je caricature, on a des personnes qui sont parfois des personnes désocialisées, isolées, avec des troubles psychotiques, âgées, malades, qui font des insomnies et qui sont souvent atteints, enfin qui ont souvent une forme de dépression, pas nécessairement, mais souvent, ce que l'on peut comprendre. Et c'est de ces personnes-là que l'on parle en disant qu'elles vont prendre une décision libre et éclairée. Je pense que c'est vraiment ne pas se situer au niveau du lit du patient et se situer vraiment dans un débat désincarné. On laisse aussi finalement seuls les proches avec leur réaction à ce qui va être une décision. Aujourd'hui, la mort naturelle ne procède pas d'une décision. C'est le cours de la vie, c'est la fin de la vie. Lorsque vous allez avoir soit une euthanasie, soit un suicide assisté, une décision devra être posée par la personne directement concernée et assumée par les proches. Et ça, on en parle très très peu. Les proches ne sont pas évoqués dans le débat. Or, que vous accompagniez, que vous acceptiez la demande de votre proche malade, vous la refusiez, que vous l'accompagniez dans sa décision ou que vous restiez au seuil, Vous êtes impliqué et le deuil que vous vivrez a des chances d'être beaucoup plus compliqué, voire traumatique, qu'un deuil déjà ordinairement difficile. Je crains qu'on soit dans une société qui finalement inverse le raisonnement et marche sur la tête parce que d'une certaine manière, elle produit elle-même des conditions indignes de vie, génératrices de demandes de mourir. On a vu le débat, enfin le scandale qu'il y a eu sur les EHPAD Orpea. On voit aussi la situation de l'hôpital public. Il est évident que effectivement, quand on est en sous-effectif, quand on patiente dans un couloir, ce sont des situations qui peuvent vous amener à dire, ben, faudrait que ça s'arrête. Et plutôt que de porter son attention sur la suppression des conditions indignes, notre société aurait tendance à s'enorgueillir de prévoir la suppression de la personne. Et véritablement, il faudrait arriver à réorienter notre regard et à nous dire oui, effectivement, on arrive à des situations dans lesquelles les conditions, c'est pas la personne hein, toujours qui est indigne, mais les conditions qui lui sont faites pour sa fin de vie ne sont pas dignes, mais on ne met pas notre énergie à supprimer cette indignité. Deuxième temps que je voulais aborder, c'était et ça fait écho avec ce que disait Perrine Garnier tout à l'heure, vraiment l'importance de l'interdit. Parce que la légalisation de l'euthanasie, ce sera en réalité une liberté pour les forts et une contrainte pour les autres. Et c'est ce que disait aussi Charlotte Dubreuil tout à l'heure, c'est un débat qui est mené par les forts à double titre. Structurellement, parce que il est conduit par des biens portants. On sonde, oui, on fait des sondages, mais à des personnes qui vont bien. On fait des débats sur les plateaux télévisés, la plupart du temps par des personnes qui vont bien. Et ce n'est pas la vie des personnes en fin de vie que l'on recueille. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été menée, je me souviens pas de son prénom, je crois que c'est Sébastien Salas, qui est médecin dans le sud de la France, et qui montrait qu'en fait, quand on sondait les personnes en fin de vie, on n'était plus du tout sur des chiffres mirobolants de 95-96% d'opinion favorable à l'euthanasie, mais on arrivait à 51%, et là encore, c'était une opinion, c'était pas une demande pour soi-même. Et on est aussi dans une situation où en fait personne ne se projette, on ne se projette pas en fin de vie, on se prononce pour les autres, mais on se prononce pas pour soi-même. Comme on l'a dit aussi concrètement, finalement, la plupart des demandes d'euthanasie qui persistent ne sont pas des demandes motivées par la douleur, elles sont des demandes qui vont être motivées souvent. Alors évidemment, je veux pas non plus schématiser. Il peut y en avoir, mais celles qui persistent, l'étude qu'a évoquée Perrine Garnier tout à l'heure disait que dans 90% des cas, la prise en charge en soins palliatifs avait fait disparaître la demande d'euthanasie. Ce qui va rester, ce sont des demandes philosophiques. Donc ce sont des demandes qui sont portées par des personnes dotées d'un certain tempérament, provenant parfois de milieux plus favorables, pas toujours, mais parfois une femme médecin en soins palliatifs au tempérament affirmé, Isabelle Marin, me disait « l'euthanasie, c'est une demande de l'intérieur du périphérique parce qu'en réalité, elle disait « nous, moi, j'en rencontre pas. En revanche, moi, en Seine-Saint-Denis, ce que je rencontre, enfin, c'est elle qui le dit, en Seine-Saint-Denis, ce qu'elle rencontre, c'est plutôt des gens qui ont la trouille, qu'on ne les soigne pas réellement, qu'on n'aille pas jusqu'au bout et qu'on active les choses parce que ce sont des personnes pauvres. » Quand on parle de liberté, et si on le prend sur un plan aussi un peu juridique, l'euthanasie n'est pas une liberté, parce qu'on est libre, évidemment, de vouloir mourir au moment que l'on décide. Mais on n'est pas libre de demander à quelqu'un d'autre de vous administrer la mort. Une véritable liberté ne met en jeu que vous-même. Si vous prenez en droit la liberté d'aller et venir, ne met en jeu, évidemment, sauf cas complexe, mais elle ne met en jeu que vous-même. La liberté d'expression ne met en jeu que vous-même. Tout ce que l'on qualifie de liberté en droit ne met en jeu que la personne elle-même. Là, l'euthanasie, elle implique au premier chef la personne, mais les soignants. Elle implique des tiers. Donc on n'est pas même juridiquement, on n'est pas sur une véritable liberté. J'ai entendu, pour préparer mon livre, j'avais interrogé une infirmière qui m'avait dit avoir pratiqué une fois une injection de morphine à un patient qui était l'injection dont il avait besoin pour apaiser sa douleur. Et pendant l'injection, l'homme est mort. Et elle me disait, mais personne ne réalise ce que c'est que de voir la vie quitter la personne du fait de l'acte que vous posez vous-même. Et plus que ça, vous avez, et là je me réfère au mémoire de recherche qu'a réalisé Pascal Favre et puis un témoignage qu'on a reçu dernièrement. Les médecins qui pratiquent l'euthanasie en Belgique sont souvent des médecins qui vont mal, des médecins qui justifient leur pratique, voire multiplient leur pratique pour quelque part la banaliser et la vivre au mieux. Mais par exemple, le docteur Corinne Van Oost lui a clairement dit que elle ne dormait pas la veille d'une euthanasie. Et qu'après avoir pratiqué une euthanasie, elle était dans l'obligation d'aller se promener pour se reconnecter à la nature, se reconnecter à la vie. C'est en soi pas normal qu'une personne, n'importe laquelle, soit obligée de vivre ça pour assumer ce qu'elle pratique. Un autre médecin qui était très connu pour sa pratique des euthanasies, un médecin belge, qui venait de prendre sa retraite, lui a dit, il était temps que ça s'arrête parce que ça devenait insupportable. Et dans l'entretien qu'elle conduit, il a fondu en larmes à 3 reprises. Ça non plus, ça n'est pas normal. On a eu dernièrement un webinaire avec l'ASFAP dans lequel un infirmier belge rapportait ce témoignage. Il s'était adressé à une personne, enfin un médecin qui avait une certaine stature, apparemment d'après ce que j'ai compris, une stature physique et une autorité morale et qui pratiquait des euthanasies. Et dans la conversation, il lui dit « Mais tu sais que tu n'as pas l'obligation de pratiquer ces euthanasies. » Et là, ce grand bonhomme l'a regardé avec des larmes dans les yeux en lui disant « Tu sais, je me réveille la nuit en sueur avec le visage des personnes que j'ai euthanasiées devant moi. » Et ça aussi, c'est quelque chose qui est absent du débat. On ne parle pas des proches, on ne parle pas des soignants. On a tendance à considérer que les soignants feront ce qu'on leur demanderont de faire, puis qu'on leur demandera de faire. Mais si on a des soignants qui sont obligés de se déshumaniser pour réaliser réaliser leur métier, on aura quoi comme soignants plus tard ? On dit souvent que quand on est maltraité, on devient maltraitant. Si effectivement des soignants ne vivent leur métier que dans la douleur, que dans la peine, que dans une forme de traumatisme, qu'est-ce qu'ils seront pour nous, patients? Et comment est-ce qu'ils pourront s'impliquer de la même manière? Claire Fourcade, l'actuelle présidente de l'ASFAP, a écrit un texte que vous trouverez très facilement. Le titre, c'est « Euthanasie, une piqûre de mort ». Dans laquelle elle dit « Moi, je veux pas devenir une nécropole ». Et elle me disait « Moi, quand j'accompagne un patient, je fais le chemin avec lui, j'écoute ses angoisses, je le fais parler. Si on me dit que je dois à la fin l'euthanasier, comment je vais faire alors que lui, il aura fini son chemin, mais moi, je dois repartir dans la chambre de quelqu'un d'autre, commencer le même chemin avec lui ? Comment je vais m'engager de la même manière ? Il est évident qu'on ne peut pas, on ne peut pas humainement s'impliquer aussi profondément et laisser tomber les barrières de la même manière quand on est dans une situation où on va devoir administrer la mort à quelqu'un. La liberté, en plus de ça, ça c'est pas quelque chose qui préexiste. La liberté, ça s'institue, y compris par l'interdit. J'avais beaucoup apprécié un texte de Muriel Fabre-Magnan, que je trouve, c'est son titre, « L'institution de la liberté », le livre est formidable, qui examine tout à fait l'évolution de notre société et l'évolution qui consiste à considérer que le consentement est le critère ultime de discernement éthique. Si la personne a donné son consentement, alors l'acte est bon. Elle dit assez, si je résume très 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 synthétiquement son livre qui est difficile à synthétiser, mais dit le consentement c'est un critère nécessaire mais pas un critère suffisant pour discerner l'éthique. Et on voit bien dans notre droit, on protège des personnes, on protège le consommateur. On considère que dans le rapport de force entre le vendeur et le consommateur, il faut protéger le consommateur. On protège le salarié. On considère qu'il a besoin, pour préserver sa liberté, d'être protégé. Et il y a des interdits. Alors comment est-ce qu'on nous explique que pour une décision de vie ou de mort, on ne protégerait plus véritablement la personne ? Là aussi, effectivement, il faut préserver l'interdit. Et comme le disait Perrine Garnier, finalement, l'interdit, c'est aussi ce qui préserve la créativité. C'est aussi ce qui, déjà probablement, a permis le développement des soins palliatifs que l'on connaît, parce que lorsque vous avez une solution facile, vous avez tendance à l'employer. Mais pour prendre un exemple, j'ai rencontré aussi Ségolène Perrucchio, qui est, je suis perdu à la fois dans les grades de l'armée et dans les grades de l'hôpital, donc je risque de me planter mais elle est responsable, en tout cas, de l'unité de soins palliatifs de Puteaux. Et elle me parlait du cas d'un monsieur qui est arrivé et qui était atteint de la SLA et qui demandait l'euthanasie. Et tout le monde demandait l'euthanasie pour lui. Et évidemment, elle ne l'a pas pratiqué puisque c'est contraire à ses convictions et à la loi. Mais elle me disait, je l'ai évidemment pas abandonné là. Je lui ai demandé quelles étaient ses plus grandes angoisses, ce qu'il craignait. Et comme souvent, ce qui lui faisait le plus peur, c'était de mourir d'asphyxie. Et là, elle a décidé de faire quelque chose qui n'est pas a priori dans les protocoles, c'est de fournir à son épouse une seringue de midazolam à lui pulvériser dans le nez, dans l'hypothèse où il avait une crise d'asphyxie. Et son épouse est venue pendant 18 mois, tous les mois, chercher la seringue renouvelée, sans jamais l'utiliser. Et quand Ségolène Perrucchio, à un moment donné, dans les couloirs, lui a dit « Comment va votre mari ?», elle lui a simplement répondu « Il est bien ». S'il n'y avait pas eu l'interdit législatif, s'il n'y avait pas eu la loi qui interdisait l'euthanasie, elle n'aurait pas pu s'opposer à cette demande. Elle aurait été obligée soit de la satisfaire elle-même, soit d'orienter ce patient vers quelqu'un qui l'aurait satisfait. Il aurait vécu 18 mois de moins. Ce couple aurait eu 18 mois de vie commune en moins. Au nom de quoi ? Pourquoi on ferait cela ? Donc véritablement, je persiste sur le fait que l'interdit n'est pas effectivement nécessairement une contrainte, mais est une préservation à la fois de la liberté du patient et de la créativité des soignants. Alors, pour conclure, Agatha, le titre de cette soirée nous interrogeait sur quelle société voulons-nous. Moi, je me pose souvent la question dans ce débat que nous menons sur la société que nous avons. Et il me sera, je pense, permis dans cette enceinte de citer un pape et un pape jésuite. Pour retenir en fait deux termes qui me sont revenus pendant tout le temps où je travaillais ce sujet. Quand il avait invoqué d'une part dans Laudato Si le paradigme technocratique, parce que je trouve qu'on est dans ce débat sur une conception qui est très de la vie et de la société, qui est très utilitariste et très techniciste. Utilitariste parce que souvent on va vous dire l'agonie à quoi ça sert, comme s'il fallait que la vie est une utilité pour qu'elle mérite d'être préservée. Techniciste, parce que quand on nous dit les soins palliatifs et l'euthanasie sont compatibles, eh bien, je trouve que c'est une vision effectivement techniciste des soignants, parce que c'est pas parce que vous savez poser une perfusion de Liprane que vous savez poser une perfusion de pentobarbital. C'est le même acte technique, mais ça n'est pas exactement la même chose. Et je voudrais en réalité terminer par une petite citation du pape François, qui était une citation de son discours au Parlement européen en 2014, parce qu'il les développements qu'il a font écho à mes inquiétudes. Il disait « Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels, je suis tenté de dire individualiste, qui cache une conception de la personne humaine détaché de tout contexte social et anthropologique. presque comme une monade, toujours plus insensible aux autres monades présentes autour de soi. Au concept de droit, celui aussi essentiel et complémentaire de devoir ne semble plus associé, de sorte qu'on finit par affirmer les droits individuels, sans tenir compte que tout être humain est lié à un contexte social dans lequel ses droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et au bien commun de la société elle-même. Par conséquent, je considère qu'il est plus que jamais vital d'approfondir aujourd'hui une culture des droits humains qui puisse sagement relier la dimension individuelle ou mieux personnelle à celle de bien commun, de ce « nous tous » formé d'individus, de familles et de groupes intermédiaires qui s'unissent en communauté sociale. Ce que je voudrais dire vraiment pour conclure, c'est que la question au bout du compte me semble plus temps de discerner quelle société nous voulons que de savoir si nous voulons être une société.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Erwan pour ce tableau et à la fois ces avertissements et ces appels que tu nous lances. Et je donne la parole à Bruno. On gardera un petit temps pour quelques questions avec la salle.
Un petit temps. Alors, je vais faire un abrégé de ce que j'avais prévu. Tu m'arrêtes dans 10 minutes, parce qu'on a le temps de discuter, quoi, parce que c'est ça qui importe. Voilà. La question qui m'a été posée, c'est quelle référence chrétienne pour contribuer au débat sur la fin de vie. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, non pas se situer, mais contribuer. Ça suppose que l'on perçoive que l'Église est encore capable de contribuer à. Oui, mais c'est pas si évident que ça. On sait ce que pense l'Église, elle a des interdits très fermes, ça a été rappelé à plusieurs reprises, l'interdit qui ouvre des possibles, voilà, c'est une constante dans l'argumentation de l'Église, donc tout le monde sait ce que pense l'Église catholique. Mais comme tout le monde sait ce qu'elle pense, elle est discréditée dans sa propre contribution au débat actuel. Alors c'est ça qui me préoccupe le plus. D'ailleurs, vous en donnez un très bon témoignage à la page 17 de votre livre, n'est-ce pas? Vous avez une interview avec Bertrand Delanoë, et en fait, il disqualifie votre parole en disant « Votre position ne serait que l'expression de la croyance religieuse ». Excite. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et il me semble qu'il y a un gros problème qui est là. C'est-à-dire que l'Église catholique est disqualifiée d'emblée au point que certains ne veulent même plus l'entendre. Et c'est ça, moi, qui me préoccupe beaucoup. Ça, voilà. Alors vous êtes identifié comme catholique un petit peu moins que moi. Enfin, c'est pas parce que vous êtes moins catholique que moi, mais vous avez moins l'étiquette. Donc vous pouvez vous permettre des choses. Mais moi, je suis très préoccupé par ça. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où, comme on sait ce que pense l'Église, elle n'a plus sa part dans les débats. Enfin, c'est ça qui me préoccupe. Bon. Donc, ma question, en quelques minutes. Bon, j'ai fait un long discours, mais enfin, voilà, je vais résumer en quelques minutes. Ma question, c'est comment contribuer? Parce que les arguments sont donnés. Je peux vous donner tous les textes que j'ai contribué aussi à la Conférence des évêques de France à élaborer. Des raisons, il y en a beaucoup. Donc les textes sont précis, vous en avez énuméré un certain nombre. Donc les arguments, je veux dire, sont posés sur la table depuis un certain temps. Maintenant ma question c'est comment contribuer? Il me semble que le christianisme ne s'est jamais défini simplement dans une logique d'opposition, mais comme une mission d'animation du monde selon la bonté exigeante du Christ. Comme en témoigne notamment une citation que j'aime beaucoup de l'épître à Diognète, donc on est au deuxième siècle, hein, dans un contexte de persécution, dans un milieu hellénique, où en fait, les chrétiens qui justifient leur position les justifient comme une ambition, que je trouve absolument démesurée, mais c'est comme ça. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. On pourrait dire une tâche d'animation du monde. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est pas seulement de formuler des arguments et des critères d'opposition, c'est comment nous allons continuer notre tâche d'animation du monde, mettre de l'âme, du sens, voilà. En passant par ce que vous avez dit. Voilà. Alors je vais énumérer simplement quelques points que j'ai pas le temps de développer là, parce que le temps passe. D'abord, je crois qu'il y a une mission du christianisme, c'est de 1. Contribuer à valoriser la raison. La raison. Et le débat conduit selon la raison. C'est très important. Bon. Pourquoi? Ben, si vous avez regardé la fin du vote de la fameuse, l'article numéro 1 de la loi Falorni, c'est insensé, c'est une sorte d'émotion qui prend toute l'Assemblée, espèce de d'émotion qui submerge tout le monde, on se demande où est passée la raison, tous les députés se lèvent comme s'ils avaient accompli un acte salvateur, voilà, tout ça dans la petite niche parlementaire, et moi je me suis dit, mais c'est hallucinant, il y a quelque chose d'hallucinant qui les émotions prennent, et comme le dit si bien Claire Fourcade, il y en a, la plupart de ces députés-là ne savent même pas ce qu'ils viennent de voter, et n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le soin que vous avez très bien décrit tout à l'heure. Bon. Donc, une contribution du christianisme, favoriser le débat en raison. Dans cette bonne maison, on a contribué à restaurer la fameuse disputatio du Moyen-Âge. Autrement dit, un débat régulé. Il faudrait non seulement qu'il y ait, Erwan ici, mais des contradicteurs avec un débat régulé, n'est-ce pas? Donc, valoriser le débat en raison, avec des procédures, des manières de faire. On l'a réinauguré à la Sorbonne le 2 avril 2022, grâce à des enseignants du Centre Sèvres et à la très bonne revue Études. Bon. C'est capital pour le dialogue démocratique. Des débats emmenés selon la raison. Votre livre est sous-titré « Avant d'éteindre la lumière ». Moi, j'aurais envie de dire plutôt « Il faut ranimer les lumières », n'est-ce pas? Au sens philosophique du terme, c'est-à-dire ranimer le discours de la raison qui suppose d'abord un discours en dialogue, le dialogue des raisons, par-dessus les émotions, hein, une raison qui régule les intérêts personnels, les passions, les émotions, les solutions hâtives. Il faut prendre le temps pour discuter en raison. Et il faut écouter beaucoup de monde, notamment les soignants. C'est bien qu'on ait commencé par vous. Voilà. C'est essentiel, essentiel. Bon. Deuxième point. Aider à développer une vision d'un monde désirable, suscitant l'engagement et la créativité du soin. Moi, je pense que la question « Quel monde, quelle société voulons-nous » est une bonne question. Parce qu'on a besoin de se projeter, on a besoin de savoir ensemble ce qui est désirable pour nous, pour d'autres. Se focaliser simplement sur un nouveau droit A, c'est-à-dire un droit créance, et non pas les droits liberté que vous avez annoncés tout à l'heure. Se focaliser là-dessus, c'est en fait occulter le débat. Bon, se focaliser, voilà. Sur le débat. Une société démocratique, elle a besoin d'horizons. Les débats écologiques, à mon sens, nous redonnent de la marge. Qu'est-ce qui est désirable pour nous tous ensemble? Donc nous avons besoin de nous réapproprier une société solidaire, une vision d'une société solidaire où chacun puisse engager sa liberté pour le soin du monde commun, pour le soin d'autrui, dans des institutions que l'on peut espérer encore hospitalières, c'est-à-dire pratiquant véritablement l'hospitalité. Là-dessus, le christianisme a des ressources. Il a des ressources. Il a des ressources dans les paraboles, les textes. Il a des ressources dans sa foi. La parabole du bon samaritain, elle est commentée par bien des philosophes aujourd'hui. Ça peut inspirer des gens. La mise en scène. Bon. Donc, suivre le Christ, l'hospitalité du Christ, qui ne demande pas à quelqu'un quelle est sa race, sa classe, son genre, son sexe, etc. Donc, quelque chose d'inclusif, l'hospitalité. S'inspirer des grandes traditions religieuses, dont celle, par exemple, juive, du Tikkun Olam, la réparation du monde. C'est un grand thème de la mystique juive que Corinne Pelluchon reprend dans son beau livre « Réparons le monde », le thème de la réparation du monde. Le monde va mal et en fait, tous ensemble, on peut le réparer, voilà, mettre de l'humanité. Il y a la souffrance et la mort, il y a la détresse, mais il y a aussi la solidarité et le soin, l'amour et l'engagement. Je pourrais développer longtemps, mais je pense que les chrétiens encore peuvent témoigner de ça, concrètement, d'un monde désirable. Tous les soignants, ceux que nous avons ce soir, témoignent de ça, depuis les débuts du christianisme, depuis les premiers hospices, les hôtels-dieu, jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment essentiel, c'est un témoignage qui me paraît fondamental. Et quelles que soient les futures lois qui seront jugées par les chrétiens, spécifiquement les catholiques, comme immoral, néfaste pour le projet d'une société hospitalière, les chrétiens continueront d'inventer du soin. Moi, j'en suis persuadé. Il y en a plein qui se décourageront. Il y en a qui quitteront leur poste. Les enquêtes qui prouvent qu'il y en a beaucoup qui quitteront leur poste. Voilà. Ils feront autre chose. Mais il y en a qui demeureront et qui tenteront de trouver des voies autres pour continuer à soigner et témoigner de ça. Il faut beaucoup les aider. Bon. L'épître à Diognète se termine par ce propos. « Si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu'il ne leur ait pas permis de déserter. Je crois que les chrétiens ne pourront jamais déserter le soin. Il faudra qu'ils trouvent des voies. Mais chercher, inventer. Il y a plein de gens qui font ça. Troisième point. Développer une culture de l'attention. L'attention à l'autre. C'est un thème fondamental du christianisme. Comprendre ce qui arrive à l'autre. À commencer par les plus petits. Il n'y a pas de soin sans une culture de l'attention à autrui. Ce qui lui arrive, en commençant par les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui sont aux marges, comme dirait le pape François, aux frontières, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on n'entend pas, ceux qui sont rendus invisibles, ceux qui sont rendus inaudibles, par les puissants, par l'habitude, par la négligence. Il faut écouter les soignants, ils ont été applaudis et puis rapidement oubliés. Eux, ils savent ce qu'est une culture de l'attention. Là encore, le christianisme a beaucoup de ressources pour développer une culture de l'attention. J'ai parlé du bon samaritain, on pourrait parler aussi de la mystique du soin. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça me surprend toujours cette parole quand même. Voilà. Que le Christ est concerné dans chacun de nos actes. Mais on n'a pas besoin forcément d'être croyant pour comprendre ça. Pour essayer de se mettre à la hauteur de l'autre. Pour comprendre ce qui lui arrive. Pour avoir, comme le bon samaritain, un cœur qui voit quand tous les autres passent et s'excusent. Voilà. J'aurais beaucoup à dire. Quatrième point. Aider à respecter le mystère de la personne et de l'unité de la personne. Cette culture de l'attention est inséparable de la considération de l'autre comme une personne, quelles que soient ses appartenances, ses réussites, ses échecs, ses diminutions, son état de conscience. Inséparable de l'obligation du respect, du consentement. Comme le formulait déjà le pape Pie XII en 1952, le médecin ne peut rien faire sans le consentement du patient. En 52. Voilà. Bon. Cette attention à la personne, quelles que soient ses caractéristiques, ses manifestations, conduit à affirmer qu'il n'y a pas de seuil d'humanité, pas d'état où l'on pourrait dire que l'humanité d'une personne s'est absentée parce qu'elle ne communique plus, parce qu'elle semble réduite à une vie végétative. Il y a un mystère de la personne qui n'est découvert que par l'attention. Mystère d'une personne qui se présente dans son dénuement, quand elle n'a plus l'apparence humaine, quand ses manifestations ne sont plus là. C'est un critère éthique fort. Chaque fois que l'on admet un seuil, alors il se présente un curseur qui se déplace au gré des intérêts et des pressions pour signifier les changements de l'humanité. Il y a des gens qui seraient plus humains à partir d'un certain stade. Cinquième point, aider à développer les libertés dans la solidarité. Il n'y a pas de liberté sans les liens et la solidarité qui l'assurent. Dans le triptyque de la devise républicaine, les trois termes se tiennent, se soutiennent. La liberté est arrimée à la fraternité. Sinon, pourquoi la revendication du suicide se doublerait-elle d'une assistance? Pourquoi demander une assistance? Le terme même appelle une solidarité, il la convoque. Maintenant, est-ce qu'on peut y répondre? Comment y répondre? La grande question actuelle n'est plus celle de la dignité, comme lors de la fondation de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est plutôt le thème de la liberté qui revient partout. C'est ma liberté, c'est ma détermination, c'est moi qui décide. Je demande aux autres de faire ce qui est bon pour moi. Au fond, pour tout un courant, la dignité n'est plus une valeur intrinsèque et absolue de la personne. Elle réside entièrement dans la liberté. Mais on ne peut pas défendre une autodétermination absolue et la convocation des libertés chargée d'accomplir la sienne. Il faut tout de même tenir compte de la liberté des soignants et de ce qu'ils vivent eux-mêmes, tous ces soignants. Il y a beaucoup de témoignages, Erwan en a rappelé sur les détresses des soignants, les détresses des médecins, qui ne font pas l'objet d'une enquête. Ça commence, je sais qu'il y a des enquêtes en Suisse, il y a quelqu'un qui fait une thèse là-dessus, pour auditionner les soignants qui pratiquent ça, et enfin écouter la détresse des gens qui font ça. Voilà. Oui, enfin bon, il y a beaucoup d'autres témoignages. Voilà. Donc il n'y a pas, de liberté sans une exigence intrinsèque de la fraternité. Si vous connaissez les derniers textes publiés par la Conférence des évêques de France sur les questions de la fin de vie, il y a toujours le terme fraternité qui est là, en permanence. Voilà. Et le christianisme ne se contente pas de l'invoquer. Il propose cette fraternité dans le soin. Il propose une pédagogie du soin, de l'engagement. Le christianisme n'est pas là pour imposer des doctrines, mais il peut montrer la fécondité d'une vie orientée par le soin d'autrui et du monde commun. Et il peut rendre, me semble-t-il, encore cette orientation désirable pour beaucoup. Voilà. Le pape François en parle beaucoup, il y a Laudato Si, il y a Fratelli Tutti, et puis il y a Samaritanus Bonus. Voilà. Voilà. Les trois textes-là qui se tiennent ensemble. Et puis, j'ai envie de continuer et finir par là. Laissez le temps de parler. J'ai tout ça raccourci, mais enfin, j'aimerais terminer par un dernier point. C'est que le christianisme doit encore manifester une culture de la raison critique et de l'écart par rapport aux modes. Le Christ, certes, manifeste de la compassion, mais il sait aussi manifester ce que le poète Jean Grosjean appelle l'ironie christique. Cet art de déstabiliser et de déposséder les sachants et les puissants, non pas pour les accabler, mais pour les faire bouger, leur offrir un autre chemin de vie. Toute démocratie a besoin de trouver des personnes qui exercent cet art. Le christianisme devrait donc contribuer à développer une culture de la raison critique. Voilà, un exemple. De l'humour, voire de cette ironie sans méchanceté qui montre les incohérences, les insuffisances, les prétentions, les faux raisonnements. Une démocratie a besoin du dialogue régulé, de la disputatio, oui, mais aussi d'une culture de l'impertinence, du poil à gratter, de la démystification du discours qui se prétend généreux, libérateur et porteur de progrès. Et les discours simplistes sur la manière de résoudre les difficultés de la fin de vie ont besoin de rencontrer cet arc de la critique bienveillante, cet art de l'écart, de l'impertinence, qui montre la différence entre des enjeux fondamentaux et des effets de mode. Nous avons besoin de littéraires, de pamphlétaires, d'avocats, qui manient avec délicatesse cet art mordant de l'impertinence et du poil à gratter devant le prêt à penser et le prêt à agir. Ne prenons pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, vous avez dit tout à l'heure. J'ose espérer que ces quelques éléments de contribution du christianisme, vous avez vu mon leitmotiv, c'est de ne pas nous faire exclure parce qu'on sait qu'on dit non. Voilà. Et de ne pas briser l'élan qui est fondamental du christianisme, de la participation au point, au soin, on ne peut pas le déserter. Nous avons besoin de nous inspirer de la sagesse des soignants engagés dans ces débats, une sagesse acquise dans la fréquentation quotidienne de la maladie, de la mort. Et seuls eux pourraient, à mon sens, s'opposer avec le poids de leur expérience, le poids de leur finesse, à ces dérives qui ont été constatées. Le christianisme peut encore contribuer, avec beaucoup d'autres, et à l'école des soignants, à ce que le pape François appelle une culture du soin. Ah, il a un texte admirable sur la culture du soin, janvier 2021. Une culture du soin. Une culture du soin pour éliminer la culture de l'indifférence, du rejet et de l'affrontement, souvent prévalente aujourd'hui. Je le cite, « La culture du soin, cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le bien de tous, cette disposition à s'intéresser, à prêter attention, à la compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l'accueil réciproque, constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix, disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. » Fin de citation. Il est donc toujours temps, et merci d'y contribuer à votre manière, il est toujours temps de contribuer tous ensemble, de manière résolue, à cette culture du soin. Je vous remercie.
Merci beaucoup Bruno, merci pour cette précision chirurgicale, mais avec beaucoup de... un soin très, très délicat. Je pense que tu nous as fourni, spoilé le plan d'un futur livre. Je l'espère, je le souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Nous pouvons aussi remercier, je ne sais pas si on peut dire par contumace, le pape François qui a beaucoup participé à cette soirée par votre intermédiaire. Merci. Nous avons un petit peu de temps pour un échange avec la salle. Alors, si vous avez des questions, des réactions, merci de vous lever, de dire en deux mots qui vous êtes et puis de, comme au théâtre, de faire porter votre voix, s'il vous plaît.
Il est ouvert, mais vous collez votre micro à la bouche.
Ah oui, d'accord, pardon.
Voilà.
J'ai pas l'habitude. Merci, bonsoir. Je vous remercie de votre intervention ainsi que de la part de tous les intervenants. Je suis une infirmière retraitée et j'ai une longue carrière à la fois hospitalière, aussi bien en France qu'aux États-Unis. J'ai fait un stage d'élève infirmière à la première maison Jeanne Garnier, rue Viollet, qui a existé jusqu'en quelle année, rue Viollet? Quelle année? Comment? D'accord. Moi, je suis allée en 62. Ça remonte. Ça fait donc 60 ans. J'ai donc fait un stage qui m'a donné une leçon pour la vie. J'ai donc beaucoup de témoignages à donner. Je ne vais pas le faire ce soir, bien entendu. Après, j'ai travaillé dans différents services. Et je me suis toujours intéressée à la fin de vie. J'ai soigné beaucoup de personnes en fin de vie, des jeunes, des vieux, de toutes sortes de personnes. J'ai traversé une crise au moment du sida, dans les années 85, 87, 90. J'ai eu des patients qui ont voulu se suicider lorsqu'on leur a appris qu'ils étaient atteints du VIH. J'ai donc franchement souffert de ces situations-là. J'ai demandé d'avoir des réunions, là où je travaillais, et c'était la mode de donner des cocktails lithiques. Vous avez dû entendre parler de ça. C'était les premières seringues électriques. Vous avez dû connaître ça, les infirmières, dans les années 80. Ça a commencé dans les années 80-90. Avec un mélange de médicaments que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez. J'étais contre ça, parce qu'on endormait les gens sans les prévenir. J'ai donc demandé des réunions avec les anesthésistes, les médecins, les infirmières, avant que ces cocktails lithiques existent. Les anesthésistes ou les médecins demandaient aux infirmières de faire les piqûres de morphine dont vous avez parlé tout à l'heure. Et les malades nous mouraient sous nos yeux. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, vous le faites, moi je ne le ferai pas. Donc, c'était difficile de ma part, je n'ai pas été renvoyée, mais c'était mal accepté, vous pouvez imaginer. Mais ceci dit, ça a quand même parlé à certaines personnes, interpellé certaines personnes, et peu de temps après, nous avons eu des réunions de staff avec les médecins, les anesthésistes, les infirmières, les aides-soignantes, toutes les personnels soignants. Et grâce à ça, il y a eu quand même une évolution dans les mentalités. Voilà ce que je voulais dire. Et merci pour Jeanne Garnier. J'ai connu plusieurs personnes qui ont été très bien soignées à Jeanne Garnier et qui ont vraiment été accompagnées aussi bien par le personnel que par leur famille. Et j'ai assisté à des cérémonies d'adieu à ces personnes que je connaissais très bien. Voilà.
Merci pour votre témoignage. Je crois qu'on peut en profiter pour saluer au moins deux pionniers des soins palliatifs qui sont dans la salle, Patrick Verspiren, qui a été nommé tout à l'heure, et puis Marie-Sylvie Richard, qui a contribué aussi au développement et des soins palliatifs et de la maison médicale Jeanne Garnier.
Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je voudrais simplement apporter un tout petit témoignage. Je suis un médecin retraité, enfin jeune retraité, j'ai travaillé pendant 18 ans en réanimation. Je crois qu'on n'a pas assez parlé, je crois qu'aujourd'hui on dispose d'une loi qui est fantastique, qui est la loi Leonetti, qu'à l'époque, depuis environ 10 ans, on appliquait dans le service de réanimation où je travaillais, avec une concertation donc impliquant tous les soignants, où les décisions étaient prises sur des sédations profondes, mais qui dans ce cas-là, contrairement aux services de soins palliatifs, étaient évidemment des sédations terminales. On avait une particularité, on formalisait ces réunions par écrit, et si un des soignants trouvait que la décision n'était pas bonne, elle était suspendue. Et tout ça en grande transparence avec les familles. Et je voudrais rajouter un tout petit mot, c'est que ça nous a permis d'aller très très loin dans l'accompagnement des patients, puisque certaines de ces sédations terminales étaient réalisées, et ensuite les familles rentraient et accompagnaient dans les derniers moments leurs proches. Donc je crois qu'il faut vraiment mettre beaucoup de vigueur à défendre cette loi dont on dispose aujourd'hui. Il faut probablement qu'elle soit mieux appliquée, mieux comprise, mais c'est une loi vraiment qu'il faut promouvoir.
Merci. Vous voulez réagir peut-être à ça ?
Peut-être qu'il ne faudrait pas confondre la sédation profonde et continue jusqu'au décès avec ce que vous appelez la sédation terminale, parce que dans les gens comprennent la sédation terminale, c'est celle qui fait terminer, quoi. Donc voilà, donc c'est pas la même. Enfin, voilà, c'est simplement peut-être une prudence de langage. C'est pas, je veux pas dire que c'est ce que vous faisiez, mais
je pense que c'est surtout la loi Claeys-Leonetti qui a utilisé un autre terme. Et que c'était des sédations, ce que vous parlez, c'est plutôt des arrêts de traitement avec la mise en place d'une sédation. C'est que la terminologie a changé. Mais on utilise la loi Claeys-Leonetti en soins de palliatifs tous les jours. Enfin, pas non pas tous les jours. Mais voilà, mais on essaye de l'appliquer. Non. Voilà. Mais vraiment, c'est la base.
Et moi, je reviens sur l'importance de former toujours. Hein. C'est vraiment très très important, que ce soit dans les études paramédicales, médicales aussi. Hein. Comme vous dites, on a quelque chose qui existe déjà et qui est pas bien connu. Six ans après, même il y avait 2005 hein, déjà avant, mais voilà, je rebondis en disant ça une deuxième fois.
S'il y a des politiques dans la salle, il y a un message.
Mais peut-être c'est pour relancer ce que vous venez de dire, il faudra organiser des réunions publiques, un peu comme ici, mais on invite des médecins, puis ils racontent ce qui se passe en fin de vie, oui. Puis les gens posent leurs questions, puis ils disent mais c'est quoi la directive anticipée, ça sert à quoi, enfin oui. Enfin moi je trouve vos deux témoignages sont extrêmement précieux, mais je sais pas aller de, je sais pas quel lieu, mais enfin de on peut accueillir des gens qui se posent plein de questions, il y a plein de gens qui se posent des questions, il y en a qui. Enfin, on me racontait tout à l'heure, là, il y a des gens qui savent même pas qu'on peut s'opposer à un traitement, que c'est leur volonté qui. Mais il y a plein de choses. Donc, il y a plein de choses qui sont pas connues de la plupart du public. La loi n'est pas connue. Il y en a qui savent pas qu'en fait, ils disent, moi, je veux pas d'acharnement thérapeutique. Ben oui, mais écoutez, c'est déjà dans la loi. Donc, voilà, c'est très bien, mais c'est déjà dans la loi. Donc. Moi, je vous inviterai, je ne sais pas comment on peut faire, ou si le centre CEF peut y contribuer, mais à se promener comme ça dans des différents endroits, et puis faire des réunions publiques pour dire voilà ce qui se passe en fin de vie, voilà ce qu'on peut faire. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas. Puis ça permet peut-être de parler aussi de sa fin à soi, peut-être d'une autre manière, et de, je sais pas, d'apprivoiser ça ensemble, faire en sorte que c'est quelque chose qui mérite qu'on en parle, je sais pas, de manière un peu dite.
Voilà. Alors, de fait, hein, les jeunes de l'ADMD tractent dans les rues, à la sortie du métro, dans les gares.
Ah. Oui, je, à titre complémentaire, parce que c'est Internet ne peut pas remplacer l'échange et le fait de pouvoir poser ces questions, mais c'est vrai aussi que si la loi est mal connue, c'est qu'il n'y a jamais eu de campagne d'information, donc c'est assez facile de dire, c'est un argument des partisans de l'euthanasie en disant cette loi n'est pas appliquée parce qu'elle est méconnue, mais la connaissance elle tombe pas du ciel, si le gouvernement ne fait pas de campagne d'information, les gens ne peuvent pas être informés. En revanche, dernièrement, l'ASFAP a lancé une campagne d'information qui a été avec campagne d'affichage, etc. Mais vous pouvez retrouver le site qui est osonsvivre.fr, tout attaché, et qui est qui a un certain nombre d'informations, de témoignages. C'est déjà une bonne chose, même si effectivement faut utiliser tous les moyens et pas se contenter d'Internet.
Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis bénévole en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier. J'avais une question pour Perrine, le médecin. Tu as parlé de temporalité, tu as parlé du temps que vous preniez pour étudier les demandes qui étaient faites de sédation profonde et continue jusqu'au maintien, de maintenue jusqu'au décès. Et ma question était, le patient pendant ce temps-là s'aggrave. Comment vous faites pour à la fois respecter la volonté du patient et adapter votre temps à son temps à lui, en fait?
Je n'ai pas parlé. Oui, effectivement, c'est compliqué. Et quelquefois, le patient s'aggrave. On fait une réunion de concertation, le patient s'aggrave et on n'a pas le temps. Ou alors, c'est peut-être bénéfique qu'on n'ait pas le temps.
Il y a le temps du patient, il y a le temps de la famille, il y a le temps des soignants aussi. Oui, quelquefois, on arrive peut-être après la bataille, enfin, ou après. Mais je pense qu'il faut respecter. Ce temps, il est variable, hein, en fonction du symptôme réfractaire que l'on accompagne ou de la personne qui accompagne. Mais je crois que ce temps est vraiment primordial. Voilà. Et je parle des soignants, des patients et de la famille aussi, quelquefois. Ouais.
Merci beaucoup. Ah, encore une question ? Alors, peut-être une dernière question.
Mireille, je travaille à la maison médicale Jeanne Garnier comme responsable des bénévoles. J'étais assez sensible à la question, que vous avez soulevé, Bruno Santo, sur le fait de quelle société nous voulons, parce que il me semble que dans les choix que nous faisons de société, il y a quand même des grands pans de notre société française qui sont abandonnés à elles-mêmes, notamment dans les campagnes. Et j'étais assez sensible dans le reportage qu'il y avait eu, enfin dans le webinaire de la SFAP, à propos de ce qui se passe au Québec, et où elle donnait l'exemple de quelqu'un qui a le choix entre, enfin je ne sais plus si c'était au Québec d'ailleurs, mais soit d'aller à je ne sais pas où finir sa vie dans un centre de soins palliatifs, ou d'avoir une euthanasie sur place auprès des siens. Et c'est ce genre de choix, on peut comprendre aussi que les personnes préfèrent mourir avec les leurs que loin des leurs, et même dans des conditions qui peuvent être acceptables. Et je trouve que quand on place les gens dans des choix cornéliens comme ça, et c'est quand même beaucoup le cas en France, il y a quand même beaucoup de lieux où les gens ne peuvent pas bénéficier de soins palliatifs et meurent difficilement, ce qui fait le lit de la DMD et de beaucoup de gens qui sont témoins de proches qui meurent dans de grandes souffrances aussi, il ne faut pas le nier, quoi. Donc je pense que la question, elle est vraiment la question de quelle société nous voulons, c'est vrai, et quels moyens nous prenons pour que cette société soit pas que qu'il n'y ait pas que les gens qui sont en ville, qui ont des moyens et qui puissent bénéficier des soins palliatifs, comme c'est quand même un peu le cas aujourd'hui.
On ne cesse d'espérer que le nouveau plan des soins palliatifs, de développement des soins palliatifs en France, prenne en considération ces côtés de désert. On l'espère. C'est plus large que... Oui. C'est sûr. On prend une dernière question. Merci à vous. Donc je remercie encore chacun des intervenants. Merci vraiment pour ce témoignage du sens que la maison médicale, enfin que vous donnez à travers votre travail à la maison médicale, à l'équipe mobile de soins palliatifs, au sens que vous donnez dans ces situations complexes. Merci beaucoup pour l'analyse que vous nous avez présentée et des analyses pleines d'espoir. Je trouve que ça donne envie de s'engager. Moi, je retiens deux mots, en fait, peut-être. L'interdit et le désir. On va me traiter de lacanienne de base. C'est vrai, j'ai été très marquée par la place, le rôle que vous donnez à l'interdit comme ce qui suscite la créativité. Et puis ce monde désirable auquel tu nous appelles, Bruno, rendre le monde désirable par le soin, je trouve que c'est vraiment une très belle invitation et qui nous est donnée à tous, aux soignants de métier bien sûr, mais à chacun de nous. C'est une manière peut-être de nous engager, prendre soin du monde pour le rendre désirable. Alors merci à vous. Je recommande à nouveau le livre d'Erwan. Voilà, fin de vie en République avant d'éteindre la lumière au CERF. Et une dernière page de publicité. Si vous continuez à être intéressé par ces questions et que vous avez envie de vous former, puisque la formation est importante, sachez que à la rentrée prochaine, le Centre Sèvres avec l'Institut catholique de Paris ouvre un DU, un diplôme universitaire d'éthique, donc qui s'intitule « Soins et santé dans une société pluraliste, accompagnée, discernée, décidée ». Tous les renseignements bientôt sur Internet. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci et bonne soirée. Bravo.